Escalade. La Méridienne.
Allez, pour la rubrique Nuances du Monde de cette semaine, c'est avec Emma que ça se passe. Bonjour Emma.
Salut Mathieu.
Et je vois que tu n'es pas venue toute seule.
Et non, j'ai un invité aujourd'hui, il s'appelle Tanguy.
Bonjour. Enchanté. Alors vous allez nous parler de quoi tous les deux?
Et bah pour cette rentrée, on va vous parler d'un roman. Alors c'est un roman que j'ai lu cet été. Et justement, si j'ai invité Tanguy, c'est parce que c'est lui, le coupable, qui m'a mis ce roman entre les mains et qui m'a dit « Je te demande de le lire ». Sur un ton qui ne souffrait pas de discussion. Du coup, bon, j'ai traîné un peu quand même pour la forme, et puis je l'ai lu, parce que je savais bien que sur ce ton-là, c'est que ça valait le coup. Et comme quoi, les profs de maths peuvent avoir des références littéraires pertinentes et intéressantes. Et je dois bien admettre que c'est un peu un ovni dans le monde des romans que j'ai lus. Et j'en ai lu quand même un certain nombre. Ça t'intéresse, Mathieu?
Et
tu veux en savoir un peu plus?
Eh bah oui, de quoi il parle ce roman? Et puis peut-être déjà comment est-ce qu'il s'appelle?
Eh bah ça vient après, attends. Ouais, on laisse la surprise. Donc c'est un court roman russe qui a été écrit en 1929 par Evgeny Zamyatin, pardon. Donc ce monsieur Trotsky le qualifiait de snob flegmatique et il se trouve qu'il a inspiré George Orwell.
Hein. Ok.
Ça, bonne référence. Ça commence comme ça. Tout autour de l'île de Vassilievski, en une vaste mer s'étendait le monde. Là-bas, il y avait eu la guerre, puis la révolution. Mais dans la chaufferie, chez Trofim Ivanitch, la chaudière faisait toujours entendre le même grondement. Le nanomètre indiquait toujours 9 atmosphères. Seul le charbon avait changé. Avant, il y avait du Cardiff. À présent, c'était du Donetsk. Le Donetsk s'effritait. La poussière noire envahissait tout. Impossible de s'en défaire. Et l'on eût dit que cette même poussière noire avait imperceptiblement tout recouvert dans la maison aussi. Apparemment, rien n'avait changé. Ils continuaient à vivre tous les deux, sans enfants. Sophia, bien qu'elle approchât de la quarantaine, avait le même corps d'oiseau, léger et austère. Alors dans le style, déjà, on voit que c'est très russe, hein, des phrases très claires, une écriture carrée, mais en même temps, un art de la description qui tire parfois sur la poésie. Ça donne un mélange assez étonnant.
Ouais, et donc dès les premières pages, cette absence d'enfant dans le couple est évoquée comme un problème. Sophia sent que Trofim Ivanitch, son mari, va la quitter. Et puis le menuisier meurt, et voilà ce qui arrive. C'est alors que les cheveux blancs, Ganka, le pin, l'étoile solitaire dans le ciel vide, tout cela se fondit en un seul élément dont les parties étaient inexplicablement liées. Et à sa propre surprise, Sophia demanda « Trofim Ivanitch, et si on la prenait avec nous ? Ganka, la fille du menuisier, qu'elle soit... » Elle ne put continuer. Trofim Ivanitch la regarda avec étonnement. Puis à travers la poussière de charbon, les mots pénétrèrent en lui et il se mit à sourire. Lentement. Aussi lentement que lorsqu'il dénouait le sac de pain. Quand il eut fini de dénouer son sourire, ses dents étincelaient, son visage était comme neuf. Oh, « Bonne idée, Sophia. Amène-la ici. Du pain, il y en aura bien assez pour trois. » Cette nuit-là, Ganka dormait déjà chez eux, dans la cuisine. Allongée dans son lit, Sophia l'entendait se retourner sur son banc, puis la respiration devient régulière. « Maintenant, tout ira bien », pensa Sophia avant de s'endormir. « Maintenant, tout ira bien. »
« Tout ira bien ? Pas si sûr. Il y a un élément que je ne vous ai pas encore donné, c'est le titre du roman. Ce titre, c'est « L'inondation ». Et en fait, en voici quelques mots, justement. L'été passa, vitreux, sans une goutte d'eau, pesant de ses nuages secs, et l'automne arriva tout aussi aride. Par un jour bleu, inhabituellement chaud, dès le matin, le vent se mit à souffler de la mer. À travers la fenêtre fermée, Sophia entendit le bruit mou et assourdi d'une détonation, suivi d'une deuxième, puis d'une troisième. L'eau de la Neva montait, ce devait être ça. Sophia était seule. Ni Ganka, ni Trofim Ivanitch n'étaient là. De nouveau, une détonation sourde frappa la fenêtre. Les vitres tintaient sous le vent. Pelageya descendit tout essoufflée, dépenaillée et défaite. « Qu'est-ce qui te prend à rester comme ça sans bouger ? Ça va pas, non ? La Neva a débordé. Elle va tout inonder !» Sophia la suivit en courant au dehors. Alors, à ce stade, on peut peut-être commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu ?
Il y a un souci qui arrive, mais ouais, les personnages, je ne suis pas sûr de savoir quelle est leur relation entre eux, qui est qui exactement.
Alors, Pelageya, c'est la voisine du dessus.
Ok. Hein.
Voilà. Et Ganka, tu as compris, c'est la jeune fille qui a été du coup adoptée par le couple hein, quand son père, le menuisier, est mort. Alors, si on reprend la dernière phrase, une chose qui doit nous attirer un petit peu l'oreille, Sophia l'a suivie en courant au dehors. Et en fait, on peut se demander qui elle a suivi. Est-ce que c'est Pelageia ou quoi, peut-être ? Et en réalité, il y a une autre chose que je ne vous ai pas dite et que je ne vais pas vous dire. Désolée Mathieu. Mais qui aura une conséquence inattendue. C'est de faire passer l'inondation, la vraie, au second plan. Parce que la véritable inondation n'est pas là où l'on croit.
Et dès que Sophia eut inspiré en elle cette odeur, d'en bas, de son ventre, quelque chose monta en elle, éclaboussant son cœur, l'inondant tout entière. Elle voulut se retenir à quelque chose, mais elle était emportée, comme les morceaux de bois dans la rue, comme le chat sur la table. Sans réfléchir, soulevée par une vague, elle...
Stop ! On ne va pas vous en lire plus. Mais Tanguy, il y a un aspect que tu m'aurais développé, je crois.
Oui, effectivement, parce que la Neva, du coup, c'était la rivière capricieuse qui traverse le village et qui menace de sortir de son lit. Mais au-delà de cette inondation observable, derrière les mots de l'auteur, s'en cache une autre, celle dont il nous parle, mais sans trop l'évoquer. Derrière chaque bruit de vague, c'est une tempête intérieure qu'on sent s'élever. La crue des émotions qui risque de déborder, de briser les digues de la raison et de tout emporter sur leur passage. Peu à peu, on comprend que l'eau et les tourments envahissent, déferlent le temps torrent et submergent. Et le village se retrouve noyé, mais est-ce que c'est le seul ? On se sent piégé dans ce tsunami incontrôlable qui est pourtant mis sous silence, captivé par cette catastrophe humaine et qui laisse la catastrophe naturelle complètement au second plan.
Et je voudrais souligner que l'auteur a une écriture extrêmement pointue, au sens propre comme au sens figuré, qui est d'ailleurs rendue par une traduction remarquable, et je voulais la citer, de Barbara Nazaroff, hein, donc la traductrice de ce roman. Et cette écriture, elle nous saisit, et elle nous déroule au fil de l'eau une indescriptible finesse des sentiments humains.
Oui, parce que ce qui ressort de ce roman, c'est l'évocation indirecte de sentiments incroyablement forts. Mais ces émotions, elles sont tues. Elles sont tues par l'auteur, mais surtout par les protagonistes du drame eux-mêmes. Le dialogue est inexistant entre eux dans une société rude où la dure aucune place à l'écoute des ressentis. Et ce silence coupable, il finit par tirer vers le fond, de façon lente et pernicieuse, jusqu'à s'y noyer, jusqu'à l'inondation. Ce roman pose donc, selon moi, la question de la parole. En couple, en famille ou en société, c'est la question d'un mutisme subi, imposé, en opposition à un choix fort, celui de la parole, parole d'expression, parole de partage, qui peut être parole expiatrice, voire parole salvatrice.
Et on sort de ce roman avec une impression vraiment étrange, en fait avec un léger malaise. De ces malaises qui sont pour moi la marque d'un grand auteur. Parce que ce qui compte dans la lecture, c'est que ça ne nous laisse pas indifférents.
Un livre qui nous change alors, et en quelques pages en plus, donc c'est...
C'est assez court.
Très impactant.
Ça se lit vite.
Et c'est très prenant, hein. Quand on l'attaque, on ne peut plus le lâcher.
L'inondation, je veux bien que vous me redonniez le nom de l'auteur.
L'inondation de Evgeny Zamyatin.
Bon, merci beaucoup pour cette sélection littéraire et puis cette jolie rubrique.
Merci Mathieu.
Merci beaucoup, à très bientôt.
La Méridienne.